Chapitre 9. Quand il s'éveilla, il chercha à s'échapper des souterrains et s'aperçut qu'il avait dormi à côté d'une sortie. Il grimpa les marches et se retrouva dehors. Le froid l'obligea à redescendre pour se couvrir des vêtements qu'il avait abandonnés. Une fois équipé, il erra dans la ville et finit par retrouver la rue où gisait le cadavre de l'ivrogne. Son approche fit envoler trois vautours. Il trouva le visage de celui qui sait tout, atrocement picoré par les becs de ses oiseaux de proie. Les orbites vidées ouvraient deux trous noirs au-dessus du rire macabre des dents, découvertes par l'absence d'une joue.
« Le vieux est mort !»
comprit l'enfant noir. Cette révélation le plongea dans une stupéfaction sans borne. Il n'avait jamais imaginé que le vieux pût mourir un jour. Alors, à grands efforts, il tira le mort, le fit glisser sur la neige, l'entraîna vers l'entrée du métro. Il y mit plusieurs heures. Il fut beaucoup plus facile de faire dévaler les marches au cadavre. Quand la raideur de la chair disparut sous l'action de la tiédeur ambiante, l'enfant noir accomplit les rites qu'il avait vus effectuer dans la tribu. Par une chance unique, il avait trouvé le vieux mort. C'était donc à lui d'accomplir les rites. Aucun chasseur ne pouvait prétendre l'avoir vu le premier. Il fendit le crâne et dévora la cervelle crue, s'appropriant ainsi toute la force et toute la science du vieux. Puis il peina encore un jour entier pour déshabiller le cadavre, pour fendre les chairs, pour en extirper une vertèbre qu'il ajouta au chapelet funèbre d'où le vieux tirait la plus grosse part de son prestige. L'enfant noir s'enroula le chapelet autour de la taille et des épaules.
L'enfant noir est le vieux. Le vieux est l'enfant noir,
murmura-t-il, satisfait.
Le vieux n'est plus mort. Il vit dans le corps de l'enfant noir.
Il sortit du souterrain et se dirigea vers le port. Puis il s'arrêta. Il désira revoir une dernière fois quelque chose qui l'avait intrigué la veille. Il revint sur ses pas et chercha l'endroit. C'était une grande bâtisse d'aspect sévère. Au-dessus de la porte, on voyait des signes magiques. Police. L'enfant noir évita la porte hermétiquement close et entra par une fenêtre. Sa petite taille lui permit de passer entre les barreaux d'une grille. Il traversa un bureau au parquet jonché de papier. Il arriva dans une grande salle dont un mur portait un râtelier de tubes brillants. L'enfant s'empara de l'un des objets et le retourna en tous sens avec perplexité. Il mit son œil à l'orifice du tube et ne vit rien.
« C'est un os, »
pensa-t-il.
« Les dieux ont sucé la moelle. »
Il souffla dans le tube pour imiter Thoz avec son sifflet de guerre. Aucun son ne sortit. Alors, il s'avisa que l'autre extrémité du tube était renflée, qu'on pouvait la tenir bien en main, ses cannelures s'adaptant exactement aux doigts refermés sur elle. Ce contact parfait, cette sensation de prise solide au creux de la paume, lui plut. Il emporta l'objet brillant sans rien connaître de son usage. Il traversa le port, franchit la jetée et redescendit vers la tribu. Il n'avait plus besoin de la protection des dieux pour l'affronter. Chapitre 10. Quand Thoz parvint au pied des falaises, il appela le vieux sur tous les tons pendant des heures. Il hurla jusqu'à l'épuisement et, à la nuit tombée, reprit le chemin du village, la voix brisée, la mort dans l'âme. Tandis qu'il courait dans les hautes herbes, il lui sembla entendre quelque chose. Il s'arrêta et tendit l'oreille. Puis il s'aplatit au sol et perçut une vibration, un galop lointain et multiple. Il se redressa sur la pointe des pieds, tendit ses narines à la brise et huma les odeurs de la nuit. « Les chiens sauvages poursuivent Thoz, » pensa-t-il. « C'est parce que Thoz est seul. » Et il gronda du fond de la gorge Comme un fauve, il reprit une course plus rapide. Au bout de quelques milliers de mètres, il fit halte encore. Il entendit des jappements espacés sur ses traces. La meute s'était encore rapprochée. Alors, il revint en arrière en faisant un grand cercle, puis retrouvant sa piste, il s'enleva sur sa lance en un bond prodigieux par-dessus une dizaine de mètres de hautes herbes croissant sur une pente légère. Les chiens étaient tout proches. Toz resta blotti dans l'herbe, ouvrant grande la bouche afin d'atténuer le sifflement de sa respiration précipitée, réprimant le moindre geste, réprimant l'envie de masser sa cheville meurtrie par une pierre. Il entendit passer la meute devant lui, sur la piste fraîche. Il entendit le trot patient, inépuisable des chiens, coupé de brefs abois et de halètements. Quand le bruit s'éloigna, Toz se leva en silence et s'enfuit dans le sens de la brise, afin que son odeur n'arrivât pas aux narines des chiens. De temps en temps, il sautait en s'aidant de sa lance afin de couper sa piste. Lorsqu'il se sentit à peu près en sécurité, il reprit la direction du village. Au fur et à mesure qu'il en approchait, il sentait sourdre en lui une inquiétude. Il crut d'abord que le jour se levait derrière les collines, car une lueur rougeâtre colorait l'horizon. Puis il se souvint que la nuit était à peine commencée. Enfin, il remarqua que la lumière prenait sa source en un point précis du paysage, droit devant lui. « Le village !» murmura Toz. Il courut plus vite. La sueur lui coulait de partout. La brise lui apportait une odeur de cendre. Une meute de chiens passa à côté de lui, presque dans ses jambes, fuyant l'incendie. Puis il vit que le sol paraissait onduler et glisser dans la direction opposée à la sienne. Il regarda mieux. Une multitude de lapins, de petits rongeurs, de serpents fuyaient pêle-mêle. Deux jaguars apparurent et s'évanouirent aussitôt en trois ou quatre bonds rapides. Puis un ours passa en grommelant sans lui accorder un regard. Au détour d'un buisson, il aperçut brusquement un large ruban de flammes qui courait sur lui à travers la savane. L'air devenait irrespirable. Spectre noir aux bras tordus vers le ciel, un arbre solitaire se mit à fumer, puis s'enflamma d'un seul coup. Puis, loin, Toz distingua la carcasse noircie des tentes du village.
« Où sont les chasseurs? Où sont les femmes ?»
cria Toz dans le crépitement des flammes.
« Que les chasseurs répondent à Toz !»
dit-il encore. Le rayonnement lui cuisait la peau du visage. Il dut reculer, fuir de plus en plus vite. La savane entière brûlait derrière lui. Chapitre 11. Le jaguar avait faim. Son corps ocellé ondulait entre les débris calcinés et les souches d'arbres noircies par le feu. Sa queue battait ses flancs étroits, bourrés de muscles secs. La jungle était vide de gibier. Par endroits, le sol fumait encore, malgré les trombes d'eau tombées pendant la nuit précédente. Par instants, le jaguar se brûlait les pattes et grognait. Il leva le mufle et huma la brise, mais il ne sentit à l'infini qu'une odeur de cendre refroidie. Il se remit en marche. Des nœuds de force saillaient sous son beau pelage ras. Bientôt, il approcha des collines. Épargné par un caprice du vent porteur de flammes, celles-ci étaient encore vertes, à peine roussies à leur base. Le jaguar bondit légèrement par-dessus une flaque de boue cendreuse et s'engagea dans les collines surchauffées du soleil. Il parcourut encore quelques centaines de mètres et se coucha sous un arbre. De temps en temps, ses flancs s'agitaient d'un tressaillement bref sous la piqûre des insectes. Sa queue chassait nerveusement les mouches. Le jaguar bâilla de faim, puis ses narines palpitèrent. Il se dressa sur ses pattes en réprimant un cri rauque. Des effluves d'hommes arrivaient jusqu'à lui. Il resta un moment le nez dans la brise, à capter les courants affaiblis et fugitifs de l'odeur. Puis il grimpa au sommet d'un monticule, hésita un instant et se coula dans les herbes de l'autre côté. Il avançait plus vite, s'assurait en reniflant de temps en temps qu'il était dans la bonne direction, puis reprenait son trot feutré. Il s'apprêtait à passer une levée de terrain quand brusquement, il vit l'enfant noir. Celui-ci s'était arrêté et se débarrassait de ses fourrures. Il se mettait nu, séchant la sueur qui brûlait sa peau. Un tube, brillant, gisait dans l'herbe à ses pieds. Le jaguar était encore trop loin de sa proie pour bondir. Il se coula au sommet de la butte et attendit. L'enfant noir repassait autour de son torse fluet le chapelet de vertèbres. Il s'assit dans l'herbe et se reposa. Impatient, le jaguar recula et descendit lentement pour faire le tour du tertre et se rapprocher par la gauche. L'enfant noir mâchait une racine aqueuse pour apaiser sa soif. Songeur, il caressait du doigt l'objet brillant qu'il rapportait de la ville des dieux. De temps en temps, il claquait ses épaules ou ses flancs dévorés par les mouches. Autour de lui, la jungle bruissait de milliers d'insectes, et cet immense grésillement ressemblait au silence dans son uniformité à peine rompue de temps en temps par le roucoulement lointain d'un ramier. Il regarda ses pieds gonflés par la marche et brusquement fit un bond. Il avait vu un mince serpent se glisser vers lui. Prudemment, il avança la main pour prendre l'objet brillant qu'il ne voulait pas abandonner. Il s'en empara et fit un nouveau bond en arrière. À cet instant, un grand corps jaune plana une seconde au-dessus des herbes et retomba, griffe dehors, à l'endroit que l'enfant venait de quitter. Affolé, l'enfant noir resta immobile, fixant dans les yeux le grand chat à la gueule baveuse. Il chercha rapidement un abri autour de lui, mais il n'y avait pas d'arbre assez proche pour qu'il pût l'atteindre sans être rejoint par le fauve. Alors, il pointa devant lui le tube des dieux, attendant la deuxième attaque.
« L'enfant noir est l'ami des dieux !» dit-il au jaguar d'une voix précipitée. « Si le jaguar tue l'enfant noir, les dieux tueront le jaguar. L'enfant noir a le collier des morts. L'enfant noir est en même temps le vieux. Que le jaguar s'éloigne et laisse l'enfant noir. Il a mangé la cervelle du vieux. »
Mais la bête avançait lentement. Elle fit brusquement trois pas rapides et se dressa. Fermant les yeux, l'enfant poussa devant lui le tube des dieux et tomba à la renverse sous le choc de la bête. Une secousse ébranla son bras, il lâcha son arme et se cacha la tête dans les mains, attendant d'être déchiré par les griffes du fauve dont il sentait sur lui le poids velu. Mais le jaguar ne bougeait pas. L'enfant noir sentit une tiédeur poisseuse lui coulait sur le visage. Il ouvrit les yeux. La bête morte était atrocement mutilée. Un coup de hache mystérieux l'avait coupée en biais, séparant la tête mafflue, une partie du poitrail et la patte gauche du reste du corps inerte. Le sang inondait l'enfant noir. Il se dégagea et se dressa sur ses jambes tremblantes. Puis il émit un rire saccadé.
« Les dieux ont tué le jaguar !»
dit-il. Il commençait à croire à sa propre puissance.
« Les dieux et les ancêtres du collier ont tué le jaguar »
répéta-t-il.
« Les dieux ont tué avec le bâton brillant !»
Il ramassa son arme et la braqua sur le cadavre. L'objet tressauta contre la chair morte, une langue de feu jaillit en sifflant, et tailla une brèche dans l'épine dorsale du fauve. Le recul fit trébucher l'enfant.
L'enfant noir est plus fort que le jaguar. Il est plus fort que Toz,
dit-il. Dans son enthousiasme, et pour renforcer son affirmation, il posa brutalement sur le sol la crosse de l'arme. Celle-ci vibra et lança vers le ciel une gerbe éclatante. Étonné, l'enfant répéta son geste et obtint le même résultat. Il comprit alors qu'il suffisait de pousser la poignée en avant, qu'il n'était pas nécessaire de toucher l'adversaire pour tuer. Il s'approcha à quelques mètres d'un arbre colossal, visa et poussa la poignée. Le tronc de l'arbre fut aux trois quarts fauché par le feu des dieux. Le bois fuma un peu sur les lèvres de la plaie ligneuse. Le géant végétal craqua, oscilla, bascula lentement et s'abattit dans un lourd bruit de tonnerre, soulevant un nuage de poussière qui s'éleva comme un encens, comme un hommage rendu au vainqueur, à la frêle silhouette immobile de l'enfant noir, ébahi d'orgueil. Chapitre 12. Thoz avait couru longtemps devant le feu. Près d'être vaincu, il s'était jeté hors d'haleine dans un marécage. Couché à plat ventre dans l'eau nauséabonde, il laissa passer sur lui la terrifiante chaleur. Des brandons s'éteignaient en sifflant dans l'eau. Plusieurs le brûlèrent au visage. L'air devenait irrespirable. De temps en temps, il dut plonger sa tête sous l'eau car il sentait ses cheveux roussir. Mais l'eau, elle-même, devenait brûlante, et Thoz craignit la mort. Enfin, les flammes s'éloignèrent, la crépitante chevelure de feu courut au loin, ratissant la savane aux herbes sèches, ne laissant derrière elle qu'un terrain noirci. Thoz dut rester encore longtemps dans le marécage, car le sol brûlait la corne de ses pieds nus. La faim lui crispa les entrailles. Il se nourrit de crapauds cuits sous la braise des berges et en ressentit une humiliation profonde, car c'était là une nourriture indigne d'un chasseur. Des sangsues lui saignaient les jambes. Il les arracha par poignées, changea de place, recommença. Enfin, l'orage s'annonça dans le lointain. De brèves lueurs illuminaient par éclairs un paysage désolé, silhouette noire se découpant sur un champ de cendres grises à l'infini. L'eau tomba en larges gouttes espacées d'abord, puis en déluge. La surface du marécage monta peu à peu. Le sol refroidit. Thoz put sortir et cheminer seul et nu sous les trompes glacées, au hasard, sans rien reconnaître de la savane. Quand les nuages se dissipèrent, quand un dernier roulement de tonnerre gronda sur leur croupe grise, fuyant à l'horizon, le jour se leva. Thoz marcha vers l'est, à la recherche de sa tribu. Il s'appuyait sur sa lance. Ses jambes blessées enflaient à vue d'œil. Il se sentait plus faible et plus vulnérable qu'une gazelle. Les trois quarts de sa force avaient été pompés par les sangsues du marécage. Chapitre 13. La tribu aux yeux hagards, aux forces épuisées par les fatigues de la nuit, gisait dans l'herbe des premières hauteurs d'Aït. Des hommes ronflaient. Debout, au milieu des corps affalés, Bag contemplait tristement l'étendue brûlée. Il cherchait à retrouver le point de la vallée où s'étaient dressées les tentes confortables et rassurantes du village, mais il ne reconnaissait plus rien. Un profond désarroi emplissait son âme. Quand le vieux avait disparu, il avait compté sur Thoz pour le retrouver. Mais Thoz, lui-même, était peut-être mort, et Bag sentait sur lui le poids des décisions à prendre. Deux remparts de force et de sécurité s'étaient écroulés devant lui. Le vieux, puis Thoz. Et maintenant, tous les regards convergeaient vers Bag. Mais Bag se sentait nu et seul devant les menaces de la nature. Il était le dernier rempart de la tribu. Celle-ci était réduite à une centaine d'individus, car l'incendie avait été meurtrier. De nombreux enfants étaient morts. L'enfant noir avait disparu, mais cela était négligeable, peut-être même une bonne chose. Bag regrettait surtout la mort de 10 forts chasseurs, parmi les plus braves, parmi ceux qui avaient affronté les flammes pour essayer de sauver leurs enfants mâles. Ainsi rêvait Bag, en jetant un regard voilé sur les vallées grises, hier encore vêtues d'herbes soyeuses et peuplées de gibier. Il faudrait attendre des semaines pour voir reverdir la terre, fleurir les buissons et accourir les meutes de chiens sauvages en quête de lapins. Et pendant des semaines, il faudrait manger. Mais manger quoi? La multitude d'animaux qui avaient fui en désordre avec les hommes était probablement allée beaucoup plus loin. Les collines étaient désertes de presque toute vie animale. Soudain, Bag tressaillit. Quelque chose bougeait au loin dans le désert de cendres. Un point minuscule se dirigeait vers les collines d'Haït, vers la tribu. Bag mit la main au-dessus de ses yeux, attentif. Puis il toucha du pied la poitrine de Soum, étendue non loin de lui. Soum s'assit en grognant. Bag lui désigna quelque chose au loin, car la vue de Soum était connue pour valoir celle de l'aigle.
« C'est un homme !»
dit Soum. Ils restèrent côte à côte pendant un grand quart d'heure, sans un mot. Au bout de ce temps, Soum annonça
« C'est Toz !»«
Toz revient !»
cria Bag. Et comme les membres de la tribu s'éveillaient à sa voix, il répéta
« Soum a regardé dans la vallée ! Soum a vu Toz ! Toz revient !»
Une femme rit de joie. Un chasseur fit tourner sa fronde en gloussant. Quoique Bag fût heureux lui aussi, son soulagement était nuancé d'une amertume confuse, car déjà, au retour de Toz, plus personne ne le regardait, n'attendait de lui un ordre ou un conseil. Il n'était plus le chef.
« Il faut aller au-devant de Toz !»
dit-il. Et aussitôt, la pente de la colline fut couverte de chasseurs dévalant vers la vallée. Chapitre 14. Toz marchait lentement, la tête inclinée vers le sol. Chacun de ses pas sonnait dans son crâne douloureux. Ses jambes blessées avaient bu l'eau sale du marécage, elles étaient rouges et gonflées. Il s'appuya sur sa lance et s'arrêta, résistant à la tentation de se laisser tomber dans la cendre, d'où il ne se serait pas relevé. Il jeta un regard vide vers la verdure des collines et sentit son cœur s'inonder d'espoir. Il avait vu les chasseurs descendre à sa rencontre. Il entendit même, amenuisé par la distance, leur cri de bienvenue. Puis, cramponné à la hampe de son arme plantée dans la terre, il laissa retomber sa tête en avant. Un fil de bave reliait le sol à sa bouche épuisée. Il attendit les siens dans cette position. Il fut bientôt entouré, soutenu, porté par les bras forts des chasseurs. On l'étendit sur l'herbe fraîche, et les femmes lui enveloppèrent les jambes dans de grandes feuilles humides. Chapitre 15. Au bout d'une semaine, Toz se sentit assez fort pour marcher seul. Il se leva et considéra en silence le misérable bivouac fait de rares peaux de chiens tendus sur des bâtons et dont les pans étaient maintenus au sol par des mottes de terre et des pierres. C'était l'heure où les chasseurs reviendraient bientôt et le feu brillait plus clair dans le crépuscule. Des femmes étaient prostrées autour du foyer. Leurs os saillaient, car les hommes ne leur laissant plus la moindre parcelle, elles se nourrissaient exclusivement de racines, de vers et d'insectes. Habituée à leur criaillerie et à leur caquetage, Toz souffrait de leur silence épuisé. Hier encore, Bag n'avait ramené que 2 lapins, 1 pigeon et 3 chiens, ce qui était très insuffisant pour nourrir la tribu. Il était grand temps que Toz en personne dirigeât les chasseurs. Sa poitrine se gonfla d'orgueil. « Demain, » pensa-t-il. Toz mènera la chasse et la tribu pourra manger. Elle pourra construire de grandes tentes avec les peaux. Bientôt, les chasseurs arrivèrent. La mine longue, Bag fit déposer au pied du chef la viande d'un chien. Bag n'a rien tué d'autre ? Demanda Toz.
Les collines sont vides, dit Bag. Le gibier a fui.
Toz fit signe de jeter la viande dans les flammes. Au bout d'un temps, il distribua de menues portions aux chasseurs. Les femmes et les enfants aux yeux agrandis les regardèrent manger. Un enfant se mit à pleurer en se mordant le poing. Toz attendit que la maigre pitance fût engloutie, puis il parla.
« Toz a retrouvé sa force, » dit-il. « Demain, il commandera les chasseurs. Puis nous quitterons les collines. Les vallées et la savane sont brûlées. »
Il désigna l'est de la pointe de sa lance.
« Par là, le terrain monte toujours. C'est la montagne d'Aït. Seuls les dieux y vivent. Là-bas, c'est le grand marécage où la tribu serait dévorée par les crocodiles. »
Il montra l'ouest.
« Là-bas, les dieux ont gardé le vieux. Les dieux sont fâchés et le vieux n'est pas revenu parce que la tribu n'a pas chanté assez fort et n'a pas assez dansé pour honorer le départ du vieux. Il n'est pas redescendu de la chaîne Cuba et les dieux ont envoyé le feu. »
La lance pivota vers le nord, désignant l'ancien détroit entre Cuba et Haïti.
La tribu suivra Toz. Toz lui fera passer le col du vent. Dans le pays des monstres, nous trouverons du gibier.
Toz sentit le frisson d'épouvante qui courait dans les esprits simples de ses compagnons. Il se dressa de toute sa taille et bomba le torse. Les flammes découpèrent en méplats puissants les muscles de son corps. Il cogna du poing sa poitrine sonore et brandit sa lance.
Toz est fort, dit-il. Il est rusé. Avec Toz, la tribu pourra vaincre les monstres. Elle pourra manger les monstres.
La peur des chasseurs se teinta peu à peu d'orgueil agressif. Ils buvaient les paroles réconfortantes du chef. Ils avaient besoin de quelqu'un de fort pour les guider, pour remonter leur morale affaiblie par les épreuves.
Toz tuera les monstres,
cria un homme.
La tribu pourra manger,
hurla un autre. Et dans les acclamations qui fusaient de toutes parts, dans les cris hystériques des femmes, Toz, les dents au vent, la barbe blonde dressée vers les étoiles, éclata d'un grand rire confiant. De même que la tribu avait besoin de lui, il avait besoin d'elle, de son admiration, pour accroître en lui le sentiment de sa propre puissance. Chapitre 16. L'enfant noir avait passé plusieurs jours dans les collines, prenant plaisir à y régner en maître, ne craignant rien des attaques des fauves, ivre de liberté et de puissance. Puis, il se souvint de la tribu et palpita de joie à l'idée de la revoir. Il se voyait arriver au village et jeter le feu des dieux vers le ciel noir devant les chasseurs médusés. Il imaginait Toz pliant le genou devant celui qui avait mangé la cervelle du vieux, devant l'ami des dieux. Son désarroi fut total quand il sortit des collines. Le spectacle qui s'offrait à sa vue n'était que désolation. La brise faisait voler des nuages de cendre autour du squelette noir des arbres isolés. L'enfant descendit lentement vers l'endroit où se trouvait autrefois le village. Il se sentait seul. Qu'était sa puissance si elle ne pouvait se montrer? Qu'était sa fierté s'il ne pouvait en contempler les effets dans le miroir de centaines d'yeux braqués sur lui? Il erra dans la noire savane, se repérant difficilement aux rares indices déformés dont il avait gardé l'image vivante dans sa tête. Là était le grand buisson fleuri à partir duquel on tournait à gauche. Il n'en restait que quelques rameaux épineux. Là, le gros arbre centenaire, qui n'était plus qu'une grosse souche noircie. Il passa à environ 1000 pas du village, sans le reconnaître, le dépassa, arriva au marécage, qui n'était plus qu'un cloaque grisâtre, avec quelques crocodiles le ventre en l'air, dépecés par les vautours. Il tua l'un des rapaces avec l'arme des dieux, et ne trouvant rien pour faire du feu, dévora cru la viande coriace. Vers le soir, il retrouva les carcasses de baleines et reconnut les débris du village, mais il ne put recueillir le moindre indice sur la direction qu'avait prise la tribu en fuite. La brise avait effacé les traces dans la cendre légère, l'odeur de l'homme était brouillée par celle du feu. L'enfant noir s'endormit pesamment sur le sol. Le lendemain, il tourna en rond dans le désert surchauffé de soleil. Après des heures de cheminement solitaire, son cœur battit plus vite. Il venait de déceler sur le sol, plus ferme à cet endroit, l'empreinte d'un pied nu auquel manquait un orteil.
« Tose !»
pensa l'enfant noir. Il chercha encore et décela une deuxième empreinte, une cinquantaine de mètres plus loin. L'enfant noir regarda dans la direction de l'est.
« Tose est parti vers les collines d'Haït !»
dit-il à mi-voix. Il marcha courageusement vers Haït, mit de longues heures à atteindre les premières pentes, retrouva avec joie les émanations humaines, imprégnant les herbes, vit les traces du bivouac de la tribu. Mais celle-ci avait émigré vers le nord.